Et Marion, tu reçois tout de suite le collectif Rennais Anticarcéral. Bonjour.
Bonjour.
Salut à vous.
Et oui, je reçois Yo et Sophie du CRAC, le collectif Rennais Anticarcéral. Alors, vous êtes présents et présentes pour nous parler du cycle d'événements anticarcéraux qui se déroule en ce moment même jusqu'au 11 juin. Et cela intervient à l'occasion de la journée nationale contre les violences pénitentiaires qui se tient ce dimanche 29 mai. Juste en quelques mots pour résumer, vous représentez donc le CRAC, le collectif Rennais Anticarcéral, et vous vous présentez comme des militants et militantes de divers horizons ayant été confrontés directement ou indirectement à la violence carcérale. Votre but est de vous organiser de manière autonome contre la prison et son monde, et vous ajoutez par prison, nous entendons toutes les formes d'enfermement, qu'elles soient psychiatriques, judiciaires ou administratives. Et je voulais juste vous demander pourquoi ces différentes formes se rejoignent, quelles sont les violences qui se reproduisent. Vous parlez de parler la prison, vous entendez les différentes formes d'enfermement psychiatrique, judiciaire, administrative.
Bah pour la prison, pour nous, c'est vraiment tous les lieux qui restreignent les libertés fondamentales des individus et qui les oppriment et qui finalement sont juste là pour pérenniser des discriminations. Entendu que la prison enferme souvent des pauvres, entendu que les centres psychiatriques enferment des personnes jugées anormales, entendu que ces lieux sont là pour pérenniser les discriminations et les affermir, et on retrouve les mêmes formes de violence dans ces différents lieux, à savoir des atteintes à la personne,
On parle aussi des centres de rétention, peut-être les violences qui se produisent là-bas, c'est...
Oui, c'est les centres de rétention, ouais, c'est quelque chose d'assez fou, les violences qui s'y produisent, avec Vous voulez que je développe sur ce qui s'y passe?
Par exemple, dans les centres de rétention, oui, si on prend l'exemple, quelles sont les violences qui peuvent s'y produire et c'est aussi, on parle plus largement que la prison tue... que les centres de rétention tuent, donc quelles sont les violences qui amènent à cela?
Dans les centres de rétention, ce qu'on trouve comme violence, c'est d'abord des discriminations d'ordre raciste. Les personnes sont maltraitées. Elles disent souvent que c'est pire que la prison, rendu qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de... Juste elles sont livrées elles-mêmes là-bas. Et la prison... quand on dit que la prison tue et que... c'est juste de dire que la prison tue, elle détruit les individus en fait. Une fois qu'une personne est rentrée là-dedans, elle est juste, c'est signé son arrêt de mort. Même si après elle vit en prison, mais c'est quelle forme de vie qu'on a là-bas. Il y a des morts véritables aussi. Et c'est aussi pour ça qu'on a organisé cet événement suite à une des morts qui a eu lieu en prison. À savoir que il y a souvent des suicides. On parle de environ 3 suicides par semaine.
C'est à peu près un suicide tous les 3 jours.
De morts suspectes aussi.
De morts suspectes, j'allais y venir, ouais. On suggère qu'une personne s'est suicidée ou autre, mais finalement, il s'avère que c'est fréquemment des matons ou des matones qui s'en prennent à l'individu et qui le tuent. Et c'est pas juste une mort isolée, c'est tout un processus de harcèlement des personnes qui sont en prison, où les matons-matones et l'administration pénitentiaire en tant que telle a juste le monopole de la violence en prison et a un pouvoir totalement arbitraire sur les individus, où elle peut décider du sort des individus, décider que sur une petite insulte ou typiquement une personne qui va insulter un maton ou une matone ou qui va s'énerver dans le self et laisser dans la cafétéria et laisser son plateau sur le sol, des petites choses ou même des grosses choses peuvent faire que les personnes vont se retrouver en quartier d'isolement et là quartier d'isolement c'est la pire des violences, c'est juste l'isolement total, les murs blancs et là c'est la mort finale, juste les personnes perdent toute capacité sensorielle, toute sensibilité, toute perception, juste, et un exemple typique de la mort que c'est le quartier d'isolement, c'est Libreflow, vous en avez parlé dans une de vos émissions, tu me disais tout à l'heure, hors antenne, et où il a littéralement préféré entamer une grève de la faim et se laisser mourir plutôt que bah, de rester comme ça dans cet entre-deux de mort et de vie. Et heureusement, il est sorti de ce quartier d'isolement. Mais... Enfin voilà, c'est toutes ces violences qui se retrouvent en prison. Et,
Vous dénoncez donc toutes ces violences et vous défendez une pensée anticarcérale. Et pour faire entendre cette parole, vous vous associez avec différents collectifs rennais pour porter un cycle d'événements en ce moment même. Alors, il y a déjà eu des événements qui se sont déroulés, notamment le 17 mai avec le documentaire « Maton violent, la loi du silence ». Mais une autre projection se déroulera le 22 mai avec des vidéos illustrant la lutte des personnes prisonnières et de leurs proches. Puis le 29 mai, la journée nationale contre les violences pénitentiaires se tiendra avec une marche. Et enfin, le 11 juin, pour clôturer ce cycle, un atelier de lecture collective de lettres de prisonniers et prisonnières. Alors, je voulais vous demander, puisque c'est un événement collectif, donc comment ce cycle a été imaginé et de quelle manière voulez-vous le présenter ?
Et bah, du coup, ce cycle, il a été imaginé d'une manière un peu transversale parce que c'est des collectifs avec lesquels on n'avait jamais organisé d'événements aussi, aussi larges. Et c'est plein de collectifs qui sont touchés par la violence carcérale de plein de manières. Et on a essayé de donner une dimension un peu internationale à ces événements-là, notamment les ateliers de lecture qui se déroulent au CRIDEV. En fait, c'est des ateliers de lecture collective de lettres de prisonniers et prisonnières. Et voilà, l'idée, c'était déjà de pouvoir faire sortir et dans l'espace public la parole des prisonniers et prisonnières et de leurs proches. Parce qu'il faut savoir qu'en prison, le droit à la parole, il est complètement nié. C'est-à-dire que les prisonniers, généralement, qui témoignent des violences qu'ils subissent, subissent d'autres violences en retour pour, comme vengeance, quoi. Donc c'est assez courant, c'est-à-dire que l'omerta règne à la fois dans dans l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire que les collègues se couvrent et souvent on assiste au même processus qu'on voit dans la police, c'est-à-dire que les matons qui sont soupçonnés de violence souvent sont promus, sont d'abord transférés dans une autre région, puis après sont promus. Et en fait voilà, c'était pour donner la parole à toutes ces personnes qu'on n'entend pas. Et aussi pointer du doigt justement le système carcéral dans son ensemble. Et c'est pour ça qu'on parle de la prison en général, de tous les lieux d'enfermement, que ce soit sur décision médicale, administrative ou de justice. Parce que, et aussi le côté international, parce qu'en fait l'industrie carcérale, c'est-à-dire toutes les multinationales qui ont intérêt à ce que des prisons se construisent dans le monde et à ce qu'elles se remplissent, et à ce que même le contrôle carcéral s'étende en dehors des murs des prisons, en fait, c'est des industries qui sont internationales.
Et on peut aussi peut-être revenir sur la journée nationale contre les violences pénitentiaires qui se tient le 29 mai, car c'est la journée qui est à l'origine de ce cycle. Depuis quand cette journée existe-t-elle ? Est-ce que vous avez quelques informations à nous donner pour qu'on comprenne bien le contexte dans lequel elle a été créée ?
Oui, alors la première journée nationale pénitentiaire qui a été organisée, c'était à Lyon, c'était en 2021, en mai 2021, et c'était organisé par Najette, la mère d'Idir Médérès, qui était enfermée à Lyon-Corbas et qui, un de ses morts suspects en prison, il se serait suicidé en 2020. Et du coup, un an après, sa mère a initié cette journée nationale contre les violences pénitentiaires. Et c'est dans cette continuité-ci qu'on organise cette journée à Rennes pour relayer son appel et rendre hommage à toutes ces morts et ces mortes en prison. Et il y a d'autres villes qui organisent également ce même genre de jour, enfin cette journée nationale aussi.
Est-ce que tu as des exemples de villes justement à nous donner ?
On en a à Nantes.
Et à Nantes, c'est le 28, le samedi, il y a un rassemblement. C'est en train de s'organiser peut-être sur Marseille et à Toulouse aussi. Et du coup, évidemment, à Lyon.
Et donc là, votre cycle d'événements se fait l'écho des violences pénitentiaires qui peuvent exister. Et on parlait des différentes villes dans lesquelles cet événement peut exister, mais c'est très important en plus à Rennes, car il y a beaucoup d'institutions d'enfermement qui sont en place. On parle de deux centres pénitentiaires, un centre de rétention administratif, un centre éducatif fermé, et également des établissements psychiatriques. et j'ai lu votre phrase « La prison à l'image de la société ». Alors justement, comment la connaissance des conditions d'emprisonnement peut aussi venir nous éclairer sur notre société ?
Bah, en fait, ce à quoi on assiste, c'est une sorte de mécanique qui est un peu la même qui est utilisée par les syndicats de police depuis quelques années et qui surfe sur tous les discours populistes sur la sécurité d'abord et maintenant aussi sur le terrorisme, qui vise à faire croire à la société que en fait il faudrait enfermer toujours plus enfermer plus longtemps. Et c'est ce qui se passe en fait depuis 20 ans, les peines de prison ferme se multiplient et aussi s'allongent. Donc il y a eu la nouvelle peine de sûreté là, je crois que c'est 30 ans, maintenant ça se passe à 30 ans. Et donc en fait, c'est des discours qui sont uniquement promus par des syndicats de matons qui sont très très bien organisés et qui ont pour but d'avoir plus d'armes, plus de moyens, d'enfermer toujours plus et d'être dans l'impunité totale, comme la police là il n'y a pas longtemps manifesté pour demander le permis de tuer quoi, sachant qu'il existait là dans la loi. Là c'est un peu pareil en prison. Donc en fait la société elle influe sur la prison de plein de manières, je pense on pourrait en parler des heures, mais par exemple le fait que nos libertés se restreignent à l'extérieur, ça permet d'accepter beaucoup plus les restrictions de liberté pour les gens à l'intérieur. Le fait que le discours avec le néolibéralisme sur les indésirables, les gens qui l'ont bien mérité, la vengeance, le sentiment de vengeance et le désir de punir, il est clairement attisé par énormément d'hommes personnages politiques. Et ça se répand dans la société aussi pas mal. Et notamment, toujours en instrumentalisant, c'est toujours pareil, des faits divers.
Tu disais les peines de prison se multiplient. Au 1er avril 2022, 71 000 personnes étaient incarcérées en France, soit une augmentation de 9,1% en un an. Et vous êtes bien sûr opposé à ce système qui n'est selon vous pas une réponse adaptée et qui génère trop de souffrance. Je voulais vous demander si vous aviez déjà réfléchi à un autre système ou si vous voulez vous appuyer peut-être sur les exemples qui existent ailleurs.
Je pense qu'une des réponses qui peut se proposer à la prison, c'est peut-être utopique c'est de dire ça, mais déjà de se questionner sur les causes. Qui est-ce qu'on enferme? Pourquoi on les enferme? Est-ce qu'en fait on criminalise pas? Enfin, qui est-ce qu'on criminalise et pourquoi? Et pourquoi, si crime il y a, pourquoi il est commis, etc. Et on se rend compte que souvent c'est des délits de pauvreté et qu'en fait, si les prisons existent, c'est aussi parce qu'il y a une misère qui pousse les personnes à agir de manière à commettre des délits, quoi. Et du coup, en agissant sur ce qui pousse ces individus à commettre des délits, ça pourrait déjà désengorger les prisons et limiter les délits qui peuvent être commis. Et aussi, faut savoir que ce qu'on appelle criminel, ça va être... qui vont avoir des longues peines en prison. Ils sont une partie infime des personnes incarcérées. Enfin, ça représente vraiment peu de choses, je crois que c'est de l'ordre de 3%. Et ça veut dire que, bah, effectivement, ceux qu'on enferme, c'est pas forcément des... Enfin, il n'y a pas de crimes très graves qui ont été commis, finalement. C'est juste des personnes qui ont fauté à un certain moment, enfin, entre guillemets. Et du coup, d'avoir un accompagnement plus important des personnes qui commettent des fautes, de s'interroger avec elles et cesser de les enfermer et les isoler, parce qu'en fait, l'enfermement, c'est juste au bénéfice des personnes qui sont dehors, pas des personnes qui sont à l'intérieur. Il y a des chiffres qui montrent qu'en prison, ça n'aide pas à contrer la récidive et que bien souvent, il y a des récidives malgré la prison. Alors, ça montre bien que ce système-ci, cette punition-ci, elle n'est pas pertinente si les personnes reproduisent la même chose ou autre chose. Et du coup, de voir avec ces personnes comment faire pour que ça ne se reproduise pas et d'avoir un accompagnement plus poussé, en fait, et de les impliquer dans leur, la réflexion sur ce qu'elles ont commis en les infantilisant moins.
Votre message, c'est accompagner plutôt que d'enfermer.
Ouais, entre autres, on pourrait résumer ça comme ça. Mais...
Bah après, il y a aussi dans le courant de l'abolitionnisme pénal. C'est un courant qui est né dans la criminologie dans les années 70. C'est un courant qui prône la dépénalisation, par exemple, de plein de crimes, comme par exemple les crimes liés aux stupéfiants. Ça, c'est une part énorme. En fait, la plupart des personnes qui sont en prison aujourd'hui dans les maisons d'arrêt, donc pour des peines de moins de 2 ans, c'est lié au code de la route, des infractions au code de la route et du stupéfiant, quoi. Donc, c'est des choses qui... Ça n'a pas de sens, en fait, de mettre les gens... En plus, notamment les courtes peines, c'est là où il y a le plus de récidives. Donc, en fait, le but, il n'est clairement pas de protéger la société, parce que ça produit, en fait, de la récidive, ça détruit des parcours individuels, ça stigmatise à vie après. Et voilà, il y a un très bon auteur qui s'appelle Antonio Escotado, qui a fait toute une encyclopédie des drogues. Je ne sais pas si ça a été... Ça a été traduit en français, mais lui, il explique, notamment aux États-Unis, comment, en fait, la prohibition de chaque stupéfiant, chaque drogue, a toujours été en lien avec des discriminations raciales. Il y avait les communautés chinoises aux États-Unis, il y a eu les communautés hispanophones et les communautés noires. Et en fait, à chaque fois, il y a un type de stupéfiant qui est associé à ça.
Mais c'est très intéressant et merci beaucoup d'être venu. Peut-être en quelques mots, on peut dire où on peut retrouver le programme pour les auditeurs et auditrices.
Ouais, bien sûr. Bah, c'est sur expansif.info. Donc il y a un article qui est sur le site avec le programme en détail. Dimanche, si vous voulez venir, du coup, on va justement parler de lutte de prisonniers et de lutte de proches, de personnes qui ont perdu leurs enfants souvent dans les prisons. Du coup, c'est dimanche au local de l'AZEP, 6 cours du président JF Kennedy. Donc, c'est entre Villejean et Kennedy à 16h. Donc, local de l'AZEP, 6 cours du président JF Kennedy à 16h dimanche.
Merci beaucoup pour toutes ces infos et merci d'être venu nous présenter votre cycle d'événements contre les violences pénitentiaires.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Merci à toi, Marion, et merci au collectif René Anticarcéral pour cette entrevue.